Jordan Trapnard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang. Qui mieux que mon invité ce matin pour nous parler de Désir, elle qui au cinéma l'a si magistralement incarnée dans le Lady Chatterley de Pascal Ferrand qui lui valait le César de la meilleure actrice il y a 15 ans. Jeune pensionnaire de la Comédie Française qu'elle a rejoint l'année dernière, elle est l'heureuse marraine de cette 23e édition du Printemps des Poètes dont le coup d'envoi sera donné demain. Bonjour Marina Hans.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin pour parler de poésie, pour lire de la poésie. Mais avant toute chose, qu'est-ce que c'est pour vous le désir ?
Oh, c'est la connaissance de son manque.
Ouais.
Le désir, c'est quelque chose de très intime. Enfin, moi, je l'aime intime, le désir, même caché, secret, profond, interdit. Et c'est, oui, c'est la connaissance d'un manque, et c'est une énergie, un moteur d'une telle lumière, que quand on le perd, je pense qu'on perd tout.
Cette question, évidemment, les poètes y ont souvent répondu, et j'aimerais, Marina Hans, qu'on attaque tout de suite, qu'on entre dans le vif, que vous nous lisiez la réponse qu'en proposait Federico Garcia Lorca dans un poème de 1921 intitulé « Désir », justement, et que l'on retrouve dans la très belle anthologie publiée aux éditions Bruno Doucet, qui accompagne cette édition du Printemps des Poètes.
Seul ton cœur ardent et rien d'autre. Mon paradis, un chant sans rossignol ni lyre. Une rivière discrète et une source subtile. Sans l'éperon du vent sur les ramures, ni l'étoile qui veut être feuille. Une immense lumière qui serait luciole d'une autre, en un champ de regards brisés. Un repos clair et là-bas, nos baisers, grains sonores de l'écho, au loin s'en irait éclore. Et ton cœur ardent, rien d'autre.
Ton cœur ardent, rien d'autre.
Rien d'autre.
Federico Garcia Lorca traduit ici par Carole Filière. Quand est-ce que votre cœur brûle, vous ?
Moi, mon cœur brûle quand je rencontre l'altérité. Moi, mon cœur brûle quand je m'enrichis des gens que je rencontre, quand je vis des nouveautés, quand je pars à l'aventure, quand j'ai l'impression que ce que je suis en train de vivre ne ressemble à rien de ce que j'ai vécu avant.
D'où ce métier ?
Ouais.
Ce poème, en tout cas, il me fait aussitôt penser à un personnage que vous avez interprété dans le film de Pascal Ferrand, celui de roman de D.H. Lawrence, Lady Chatterley, et qui est une incarnation du désir, justement. Ce rôle de Lady Chatterley, qu'est-ce qu'il vous a appris de ce que pouvait être le désir, justement, Marina Hans ?
Une chose bénéfique, une lumière, parce que le désir peut s'exprimer à travers sa frustration, et donc ça peut évidemment créer une forme de torture mentale, physique, physiologique, et dans Lady Chatterley, c'est vraiment une énergie de vie. C'est ça que ça m'a appris. Et
tout en étant transgressive.
Oui, absolument, c'est ça. Et hors du devoir moral, en fait, que le désir, hors de cette censure, pouvait apporter tant de choses, quoi. Et c'est vrai que moi, je me disais tout le temps, mais quand je l'interprétais, je me disais, je suis tellement pas à la hauteur.
Oui, parce que c'est une force incontrôlable.
C'est une force incroyable. Et mais c'est même une force de vie, je pense. Enfin, c'est une philosophie de vie aussi, hein. De penser que de suivre son désir peut procurer comme ça une lumière et qui peut aussi diffuser autour de soi. Enfin, que ce soit une chose bénéfique, quoi.
Qu'est-ce qu'il y a de plus transgressif en vous, Marina Hans ?
Mes refus.
Il y en a beaucoup.
Ouais. Mes refus. Oui, je suis une sorte de rebelle dans l'âme et de consentir à une forme de tiédeur dans la vie, de me résigner, de m'attendre à la mort, d'en faire quelque chose de normal, d'accepter la misère humaine, de voilà. Mais mes refus.
Et ça passe par le refus, justement, d'incarner le désir quand on est comédienne, également.
Alors moi, je peux pas refuser d'incarner le désir parce que je pense que c'est une sorte d'émotion primaire dont on a tous besoin. Et en plus, Je veux juste dire ça parce que c'est assez important. Moi, quand j'ai commencé à jouer Lady Chatterley, puis après il y a eu Partage de Midi, de Claudel, enfin des pas mal de rôles comme ça de femmes transgressives. C'était très violent la manière dont ça pouvait être reçu quand il y avait des débats avec le public ou quand on discutait comme ça de cette chose-là. Les femmes étaient les plus virulentes et parlaient de ces personnages avec beaucoup de violence et en fait, elles n'exprimaient que leur propre frustration. Et je me suis dit, alors, il faut toujours, toujours montrer ces figures de transgression parce qu'elles permettent aux gens de réfléchir.
C'est intéressant, dans le métier qui est le vôtre, le métier de comédienne, quel rôle joue le désir, en fin de compte?
Pour moi, il est primordial. Enfin, il faut surtout jamais l'oublier. Et malheureusement, ça peut arriver pour des stratégies de carrière ou des choses comme ça, où on se dit, ah, il faut faire cette chose-là, il faut... En fait, que le désir tienne lieu de volonté... C'est la plus belle des choses.
Et en même temps, le désir, ça se force pas.
Non, mais ça se modèle. On peut travailler dessus, on peut le réfléchir et le porter plus loin.
Devenir comédienne pendant très longtemps, ça n'a pas du tout été un désir pour vous?
Non, j'étais trop timide. Non, mais j'aimais les acteurs et j'aimais beaucoup les artistes.
Alors quand est-ce que ce métier est devenu désirable?
Quand j'ai commencé à l'expérimenter, en fait, par la poésie d'ailleurs... Parce que la poésie que je pouvais lire à l'école et tout ça, c'était les seuls moments où j'ouvrais la bouche. J'étais assez contente. Et puis après, oui, quand j'étais au cours de théâtre, j'ai commencé à dire les mots des autres. J'ai trouvé ça beaucoup mieux que les miens. Voilà.
Avant, vous vouliez acte sur l'organisation du Printemps des Poètes, qui a dû s'adapter aux conditions sanitaires, se réinventer. À partir de demain, seront diffusés des courts-métrages poétiques, oui, tournés dans le Palais des Papes à Avignon. Films dans lesquels on vous entendra dire notamment les animaux malades de la peste de La Fontaine. Les fables de La Fontaine, vous dites parfois que c'est votre Bible.
Oui, parce que c'est comme ça que j'ai découvert la poésie. Et en fait, les animaux malades de la peste... Bon, moi, j'étais donc, vous l'aurez compris, très timide. J'arrivais pas trop à parler. Puis quand je parlais, c'était vraiment ridicule. Donc bon. Et donc... Et les animaux... Et donc, on devait lire... Enfin, on devait réciter...
Vous estimez que c'était ridicule, mais ça n'était peut-être pas.
Bon, ouais. Enfin, je vous assure, c'était pas joli à voir. Mais en fait, j'avais choisi cette fable-là parce que c'était la plus longue. Et donc, j'étais hyper fière de pouvoir la réciter devant tout le monde. Parce que, comme j'ouvrais jamais la bouche, tout d'un coup, j'avais un peu l'impression d'exister.
Comme elle résonne aujourd'hui.
Oui, hein. Oui.
On y va?
On y va. Un mal qui répand la terreur. Mal que le ciel en sa fureur inventa pour punir les crimes de la terre. La peste, puisqu'il faut l'appeler par son nom, capable d'enrichir en un jour l'Achéron, faisait aux animaux la guerre. Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés. On n'envoyait point d'occupés à chercher le soutien d'une mourante vie. Nul mets n'excitait leur envie. Ni loup, ni renard, n'épiaient la douce et l'innocente proie. Les tourterelles se fuyaient, plus d'amour, partant plus de joie. Le lion tint conseil et dit, « Mes chers amis, je crois que le ciel a permis pour nos péchés cette infortune, que le plus coupable de nous se sacrifie aux traits du céleste courroux. Peut-être il obtiendra la guérison commune. L'histoire nous apprend qu'en de tels accidents ont fait de pareils dévouements. Ne nous flattons donc point, voyons sans indulgence l'état de notre conscience. Pour moi, satisfaisant mes appétits gloutons, j'ai dévoré force mouton. Que m'avait-il fait? Nulle offense. Même il m'est arrivé quelquefois de manger le berger. Je me dévouerai donc s'il le faut, mais je pense qu'il est bon que chacun s'accuse, ainsi que moi, car on doit souhaiter, selon toute justice, que le plus coupable périsse. Sire, dit le renard, vous êtes trop bon roi, vos scrupules font voir trop de délicatesse. Eh bien, mangez mouton, canaille, sotte espèce, est-ce un péché? Non. Non, vous leur fîtes, seigneur, en les croquant, beaucoup d'honneur. Et quant au berger, l'on peut dire qu'il était digne de tout mot, étant de ces gens-là qui sur les animaux se font un chimérique empire. Ainsi dit le renard, et flatteur d'applaudir. On n'osa trop approfondir du tigre, ni de l'ours, ni des autres puissances, les moins pardonnables offenses. Tous les gens querelleurs, jusqu'au simple matin, au dire de chacun, étaient de petits saints. L'âne vint à son tour et dit, J'ai souvenance qu'en après de moines passant, la faim, l'occasion, l'herbe tendre, et je pense, quelque diable aussi me poussant, je t'en dis de ce près la largeur de ma langue. Je n'en avais nul droit, puisqu'il faut parler net. À ces mots, on cria haro sur le baudet. Un loup quelque peu clair prouva par sa harangue qu'il fallait dévouer ce maudit animal, ce pelé, ce galeux, d'où venait tout leur mal. Sa peccadille fut jugée un cas pendable. Manger l'herbe d'autrui, quel crime abominable! Rien que la mort n'était capable d'expier son forfait, on le lui fit bien voir. Selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir.
Quel texte extraordinaire, Marina Hans. Les animaux malades de la peste, de Jean de La Fontaine, merci d'être venu faire un tour dans Boomerang.
Merci à vous.
Je rappelle que vous êtes la marraine de la 23e édition du Printemps des Poètes qui s'ouvrira demain jusqu'au 29 mars dans toute la France. Je rappelle aussi que les éditions Bruno Doucet et celles du Castor Astral publient pour l'occasion deux très belles anthologies sur le désir dans lesquelles je vous invite à vous plonger à corps perdu. Merci Marina et
merci
à toute l'équipe de Boomerang, Lola Costantini, Perrine Malinge, Léonard Billot, Anouk Roche, Pierre Démé, Jean-Baptiste Audibert. Tout de suite, c'est l'heure des médias. Sonia Deville.